Félix Labrassard et mon ami
Kevin Fu.
On est dans notre podcast, j'ai perdu le compte. Kev, c'est toi qui es le pro des podcasts, des comptes de podcasts. C'est quoi le podcast aujourd'hui?
Ben écoute, je vais t'avouer que peut-être de la deuxième année, si c'est une moyenne à peu près de un par mois, on est rendu à notre cinquième.
Hey, c'est quand même bien, un par mois, cinq podcasts. Il faudrait en faire comme deux de la shot, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas être partout en même temps, hein, mon Kev?
Ben, je pense que t'as beaucoup de nouveaux projets qui s'en viennent, qui t'attirent beaucoup l'esprit et beaucoup de choses à t'occuper.
Ouais, mettons qu'on a en démarrage d'une microbrasserie, on est en train de démarrer le café emporté aussi, petit café d'un nouveau local. Après ça, on a acheté une chambre froide, fait qu'on est en train de démarrer ça. Puis, un tout nouveau projet qui s'en vient à très grands pas, j'ai très hâte de vous présenter ça. Mais ça sera pas en podcast ici, ça va être sur le channel de Fit. Si jamais ça vous intéresse, les prochaines choses qui s'en viennent pour le brasseur, pour Fit ce brasseur, pour moi en réalité, hein, parce que c'est pas mal moi Fit ce brasseur.
Ouais, t'étais un peu tout le monde, t'étais multiple personnalité de la même personne.
Ouais, c'est ça. J'ai tout le temps dit j'avais comme trop de monde dans ma tête pour.
Ouais, écoute, moi je trouve ça cool pour toi, mais la réalité c'est que t'as rien 24 heures, puis malgré l'énergie que t'as, ben tu peux pas en faire plus. Fait que, beau projet, je suis super content pour qu'est-ce qui est en train de devenir à très grands pas et très rapidement pour toi. Puis le monde va pouvoir en profiter en plus.
Ouais, ça va être vraiment cool. Mais si vous voulez en savoir plus, allez voir le channel de Fit. Je sais, j'ai été comme très, très peu dernièrement dessus, ce channel-là. Mais vous allez comprendre dans pas longtemps pourquoi, parce qu'il y a plein de choses qui s'est passé. Puis toi, mon cave, à part de ça, ta brûlure, comment ça va?
Ma brûlure va pas mal mieux. Mon pied est encore un petit peu rouge, mais d'après moi, je suis en train de me demander si mon pied va rester un petit peu rouge aussi. Que maintenant, j'ai toujours l'habitude, c'est encore très confortable. Je porte mes capes de scie en tout temps.
Fait que tu vas être sûr et certain que si jamais tu décides de brasser, que tu ne brûles pas le pied.
Ben, c'est ça. Avec petites mésaventures qui arrivent, mais disons que c'est plus mon pied que manger une volée. Fait que il s'est pas passé grand-chose dernièrement. C'était beaucoup d'émotions parce que ma femme est rentrée à l'hôpital puis j'ai failli perdre ma femme pour complications. Et que c'est triste, elle va bien aujourd'hui et puis en souffrance. Fait que disons que mes projets de brasse et mes projets multiples projets ont été... J'ai changé mes priorités, disons.
Ils ont été mis sur pause en attendant que tout se passe mieux dans la vie de personnel, c'est ça?
Et exactement. Fait que les bonnes priorités à la bonne place.
Puis aujourd'hui, on fait un podcast sur quoi, Kevin Damon?
Ah, quelque chose qui est très important à savoir, mais qui demande beaucoup de pratique et de connaissances, les faux goûts.
Fait qu'aujourd'hui, on vous fait un petit podcast sur les faux goûts. Et pour l'occasion, Kevin, vu qu'il y a plein de faux goûts dans ses bières, nous a apporté deux de ses bières, c'est ça?
Oui et non.
Ah, ok. Je pensais que tu nous emmenais de la bière, genre pas trop bonne. Puis,
mais non.
Mais là, j'ai vu que tu m'emmènes plus de bouteilles. Fait que c'est quoi, t'as peur qu'il gâche encore?
Non,
ou,
non, c'est que grosso modo, les dernières batches que j'ai faites, j'ai tout mis en keg. Fait que c'est pour ça que j'ai un petit peu moins de bouteilles. T'as des bouteilles que tu as reçues là, cette semaine qui ils vont être prêtes d'ici les prochaines semaines. On a fait un podcast originalement sur l'importance du nettoyage, qu'est-ce qu'on devait faire, puis ainsi de suite. Fait que de toutes mes mauvaises péripéties que j'ai depuis un an, malheureusement, on a mis le doigt sur le bobo parce que j'ai changé beaucoup de pièces d'équipement qui causaient peut-être des problèmes, savoir d'où c'est qui venait ma contamination. Et j'ai eu une idée de génie qui me fait que je me suis tiré dans le pied. J'ai utilisé mon beer gun pour être capable de purger mes bouteilles avant l'embouteillage pour mettre du CO2 dedans, puis après ça, je le rentrais. Et ça faisait tellement longtemps que j'ai mon beer gun, que mon beer gun, je trempe toujours dans mon Star Sand. Je ne l'ai jamais vraiment démonté pour tout le nettoyer. Fait que tous mes problèmes venaient de mon beer gun, qu'il a fallu que je démonte au complet, que je place tout pour pouvoir tout le bien le nettoyer, le stériliser, et quand je l'ai remonté, ben, je l'ai cassé. Fait que là, il n'y a plus de problème. J'ai plus de beer gun, je fais plus l'étape, puis mes bières sont super bonnes. J'ai plus de problème de bec. Il gâche plus, il goûte bonne.
Fait que le beer gun, c'est vraiment important de bien le nettoyer. Pas juste au Star Sand, PBW, le brasser, le nettoyer, changer les hoses, les valves qui sont là, de nettoyer les petits rubber et tout. Fait que c'est un peu la méthode de faire pour empêcher de faire comme Kev, là, tout scraper ses bières.
C'est ça. Et que je me dis, Colin, ça fait tellement des années et des années que je brasse, j'ai jamais eu autant de difficultés dans une courte période de temps. J'ai trouvé le problème, on a trouvé la solution, tout va bien. Mes batchs sont repartis et j'ai plus de problème de bouteilles qui explosent.
Qu'est-ce qui est drôle, par exemple, c'est qu'on parle de faux goût aujourd'hui. Kevin n'avait pas un faux goût relié à son beer gun, mais il avait plutôt un problème de gushing qui serait probablement plus tard relié à un faux goût, mais ça gâchait tellement qu'il y avait même des bouteilles qu'on n'osait même plus ouvrir. Tu t'y regardais, puis tu faisais pouf, puis le bouchon est parti dans les airs.
Et quand dans une semaine, généralement, tu fais voir quand que la gasification se faisait directement dans la bouteille, on pouvait voir déjà un dépôt qui venait se créer alentour du haut du liquide. Et qu'il y a déjà une contamination qui se développait avec le temps. Et plus que le temps passait, plus que ça s'empirait et plus que ça devenait explosif. Eh oui, c'est triste,
chanceux,
mais...
Chanceux, mon vocab, chanceux, chanceux.
Je vais juste le prendre par expérience. C'est une affaire de plus que... On va faire attention à ça. L'idée était très bonne, mais regarde, c'est de ma faute. C'est carrément de ma faute.
Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler de quelques petits points de faux goût, comment les repérer, comment les régler, autant dans votre bière que vous faites à la maison que si vous dégustez de la bière d'amis ou de la bière de microbrasserie, parce que des fois, ça peut arriver aussi qu'il y ait des faux goûts reliés à certaines choses. On n'a pas le nombre exact de faux goûts qu'on va vous parler. On va y aller comme que ça nous tente, puis vous compter quelques anecdotes tout le long que... Tu sais, parce que moi, ça m'est arrivé quelques faux goûts là-dedans qu'on va vous parler, toi, Kev?
Oui. Pour différentes raisons. Et on va vous aider justement comment éviter ça. C'est quoi l'origine de ces faux goûts-là et comment qu'on peut faire pour éviter ou réparer pour les prochaines batches?
Je pense qu'un des points critiques qu'on va voir tout le long, tu sais, je vais comme casser de la magie déjà en partant. Tao! Point critique. Beaucoup de faux goûts. Oui, on a l'empattage, c'est important, les températures d'empattage, les pH, toutes ces choses-là, l'oxydation à chaud, l'oxydation à froid, si ça se passe dans votre mou, dans votre processus de brassage, ça peut impacter soit l'apparence ou le goût des bières. Mais majoritairement, les faux goûts sont créés par la levure. Fait que c'est important d'avoir une bonne levure en santé. C'est important d'avoir un bon compte de levure, de ne pas underpitch trop, pas trop over non plus. C'est pas nécessairement mieux, mais c'est moins pire, mais c'est pas nécessairement mieux. Et c'est aussi important de bien contrôler nos températures. Quand on parle d'une température de fermentation, c'est pas la pièce dans laquelle on se trouve, mais plutôt le travail que votre levure fait à l'intérieur. C'est là qu'il est important d'avoir la bonne température.
Et que quand on parle de température, n'oubliez pas que quand vous dites que vous avez une pièce qui est à 19 degrés ou bien même à 15 degrés, puis là, on va dire, regarde, c'est beau, en mettant ma température, ma bière dans cette pièce-là, ça va nous permettre justement de maintenir un peu. La réalité, c'est que la fermentation, une fois qu'elle est active, elle travaille énormément. Et qu'en bougeant et en s'activant, il y a une température intérieure qui monte. Des fois, on peut mettre des petits thermomètres là, sur le côté des parois de notre fermenteur. Mais la réalité, c'est que la majorité de la chaleur va être en plein milieu de votre mou qui est en train de se transformer en bière. Et quand c'est facile pour une bière de monter 5, 6, 7, 8 degrés plus élevé que la température que vous avez démarré. Puis surtout que là, si l'été arrive, même si c'est frais, éventuellement, ça devient un petit peu plus chaud. Ça va monter énormément. Et là, on peut parler de plein de choses qui peuvent arriver. On n'est pas en mesure de contrôler la température.
Premier goût, faux goût, j'aimerais parler, c'est le goût d'alcool prononcé. Je crois que c'est une des choses qu'on entend quand même assez régulièrement. Goût d'alcool, goût d'alcool, goût d'alcool, goût d'alcool. T'as-tu déjà eu ça, ce problème-là? Goût d'alcool.
Non, j'étais choyé de ne pas avoir ça parce que souvent, quand tu vas genre faire goûter un exemple à une bière à quelqu'un qui va dire « Hey, c'est une bière à 10 %», mais il va dire « Ben, ça goûte pas l'alcool. » Si ta bière est bien faite, peu importe le pourcentage d'alcool, on ne devrait pas goûter l'alcool dedans.
Mm-hmm.
Ça devrait être une bonne bière. Mais si ça goûte l'alcool, il y a un problème.
Tu connais-tu les causes de ce problème-là, Kevin? Comment t'appelles ça, la bière qui va goûter un peu l'alcool comme ça? Il y a un processus souvent que la levure va faire. On appelle ça de
l'autolyse?
L'autolyse.
Généralement, le terme qu'on va donner et que ça goûte l'alcool, on appelle ça les alcools de fusel.
Ouais.
Le mot fusel vient d'Angleterre, qui veut dire la mauvaise alcool. On ne veut absolument pas ça. Et la majorité du temps, ça va arriver, encore une fois, comme qu'on a fait mention, à la fermentation. Si on va fermenter à trop haute température, que la levure elle a un choc et qu'il va travailler... trop rapidement, parce que plus que c'est chaud, plus que la levure va mieux travailler, mais ça va être en dehors de ses spécifications. Et ça va être très important de regarder quand vous avez acheté votre poche de levure. Le fabricant va vous dire c'est quoi les limites minimum, maximum pour être capable de bien travailler. chaque levure va avoir des specs différentes. Mais, comme on dit, si on ne contrôle pas la température, puis ça monte à 27, 30, 32 degrés, on va créer justement, l'alcool va, la transformation va aller trop vite et on va créer des mauvais goûts d'alcool de fusel.
Fait qu'une température trop élevée va causer ce faux goût-là, mais aussi une longue maturation. On va dire normalement 3-4 semaines, t'es correct, mais quand tu vas dépasser ton 3 à 4 semaines dans un fermenteur primaire et tu veux faire vieillir une bière plus longtemps ou tu t'en vas puis t'as pas le temps de la transférer, de la mettre en bouteille, de la mettre en keg, ça peut causer des problèmes d'alcool de fusel, de goût de fusel. C'est l'autolyse, justement, des levures. Ça veut dire que la levure se mange elle-même. Fait qu'elle s'automange.
Quand on fait mention, comme Fitz, il dit que les... il appelle ça le cake, la galette de levure qui vient de tomber dans le fond va rester en contact avec votre bière. À court terme, c'est pas un problème. Mais c'est justement, qu'est-ce qu'il dit, c'est le goût que la levure va rester là va en même temps affecter à trop long terme. Que, c'est un exemple, on ferait une bière à 10%, un genre d'Imperial Stout, puis qu'on voudrait la faire vieillir dans le fermenteur pendant 6 mois. Probablement que la meilleure méthode va être de purger si on est capable notre la levure qui va être dans notre fermenteur ou bien de transférer en secondaire, qui n'est pas la meilleure idée, mais pour ce type de bière-là, ça va être mieux justement d'enlever le maximum de levure en contact avec notre bière pour les garder à long terme.
Ou la mettre tout simplement dans une bouteille puis la laisser vieillir dans la bouteille.
Ça va faire absolument la même chose parce que le vieillissement, ça serait, c'est la même chose.
Dans la bouteille, ça ne change rien. La seule différence qu'il pourrait avoir si on veut la faire vieillir vraiment longtemps, c'est que des fois, vos caps peuvent rouiller. Fait que s'assurer d'avoir des bons caps, des capsules, des bonnes capsules avec qui ne rouillent pas. Parce que des fois, ça arrive qu'il y ait des certaines sortes de capsules qui peuvent rouiller. Si vous achetez vos capsules au brasseur, je prends les bonnes capsules au prix que ça coûte. Mais ça arrive quand même, des fois, c'est juste un enduit qu'ils mettent en dedans de la capsule. Des fois, ils se maganent et tout. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. Fait que c'est pour ça qu'on va conseiller d'entreposer les bières debout et non couchées pour empêcher justement que la bière touche aux capsules qui sont en métal qui pourraient aussi développer des faux goûts.
Et en même temps, quand on va faire la gasification en bouteille, ben en mettant votre bouteille droite...
T'es rendu hot, man.
Ouais, quand même. Hein? Ça va faire que notre levure qui va se avoir déposée après le travail qui va être fait va être dans le fond et que vous allez avoir une bière beaucoup plus claire, surtout quand vous allez mettre au frigo pendant tant de temps, tandis que si vous le couchez, mais vous allez avoir une bière trouble automatiquement.
Là, le prochain, c'est quelque chose qui est vraiment cool à parler parce qu'il y a plein de causes à ce faux goût-là. Sais-tu lequel que je veux parler, mon Kev?
La liste est longue, garde-toi.
Non, vraiment beaucoup, beaucoup de causes. C'est l'astringence. L'astringence peut venir de où?
Plus, ben, généralement, ceux qui vont faire brasser en brew in a bag, quand on va aller chercher... le rinçage et qu'on va égoutter notre eau du grain. Ceux qui vont squeezer le sac pour aller chercher le maximum, généralement, on va aller chercher de l'astringence qui va tomber dans notre moue qu'on veut éviter. Donc, c'est correct de laisser égoutter, mais ne squeezez pas votre sac pour aller chercher le maximum de liquide. Vous allez chercher de l'astringence.
Il y a aussi le pH. Si tu n'as pas un bon pH dans ton... Mashton, ça peut aller sortir de l'astringence. Fait que si ton pH, si je trouve qu'il est trop bas ou trop haut, pourrait venir sortir une certaine astringence de votre grain. L'astringence, c'est la partie qui englobe l'écorce. Ça vient de l'écorce du grain. Si quelqu'un ne connaît pas l'astringence, là, une poche de thé, sucez-la sur le coin, vous allez goûter, vous allez savoir c'est quoi de l'astringence. Là, on s'entend, c'est fois 1000 qui sont fait ça. Là. Fait que dans la bière, réduisez-les, puis vous allez voir ce que ça va vous donner. L'astringence peut être aussi causée par un rinçage trop prononcé des drèches. Fait que si on fait une bière à 4% d'alcool puis on a trop de volume d'eau puis on descend en bas de 1,5 Brix, on va laver l'écorce qu'on appelle. C'est qu'il n'y a plus de sucre de disponible. C'est un peu le tannin qu'on va y sortir, l'astringence qu'on va y sortir du grain. Y a-t-il d'autres choses que tu connais qui peut sortir de l'astringence, Kevin?
Bien, si on fait le rinçage des drèches avec une eau trop chaude, ça va justement aider d'aller chercher cette astringence-là. C'est pour ça que normalement, quand on fait un mash-out, on est à 75,6 Celsius approximatif. Donc, c'est la température pour tuer nos enzymes, mais ça nous permet justement que ça soit assez chaud pour aller chercher plus de sucre puis d'avoir une meilleure circulation. Si on va trop haut, mais la chaleur, justement, va affecter cette écorce-là et on va aller chercher, extirper les saveurs d'astringence qu'on veut éviter. Donc, le contrôle de température du rinçage est important.
Et il y a une autre méthode aussi de sortir de l'astringence, un mâche trop long, en haut de 90 minutes, ça peut sortir de l'astringence parce que l'écorce va être devenue beaucoup trop molle. Brassez beaucoup votre mâche. Tiens, on brasse. Ça peut causer de l'astringence aussi. Moudre le grain trop
fin. Fait qu'on vient tout détruire notre écorce. Puis on vient de faire partie de notre écorce. Ça fait partie de...
L'astringence est notre problème. Fait que oui, on va avoir une meilleure efficacité. Mais on va avoir une moins bonne bière. Faut avoir une meilleure efficacité puis avoir un grain plus fin, si vous voulez. Faites comme Kevin, passez-le en deux puis trois fois dans votre moulin. Ça va aider à juste ouvrir l'écorce de plus en plus.
Mais, une petite parenthèse qui est très importante, si on passe fin puis on passe deux fois, on va quand même tout détruire. L'étape que je fais, c'est que je vais généralement ajuster mon moulin pour que je sois à 1,4 mm d'ouverture de mon moulin pour être capable de casser mon écorce sans la détruire. Et que quand je vais pouvoir repasser une deuxième fois, je vais changer à 0,7 mm. Vu que mon écorce est déjà détachée, la majorité est déjà détachée de mon grain, mon écorce va passer directement dans mon moulin sans être détruit. Et ça va me donner une meilleure efficacité de rinçage parce que je vais avoir une bonne écorce encore en santé. Bon, c'est une façon de parler. Et mon grain va être quand même moulu plus petit pour avoir une meilleure efficacité. Et présentement, je me maintiens dans mon grandfather à 83% d'efficacité dans toutes mes brasses. Tout dépendant, on s'entend, de la quantité de grains que je vais utiliser dans mon grandfather parce que, veux, veux pas, il y a une limite à ce que la machine peut nous donner. Et sinon, notre grain est trop compacté et on n'est pas capable de bien circuler notre eau, donc on perd notre efficacité.
Alors, Kevin!
Donc là, présentement, Fitz vient de se servir ma Vienna Lager parce que Fitz, les IPA et les New England IPA, c'est pas son dada. C'est ma première expérience de New England IPA qui est très bon, mais qui n'a pas donné ce que je voulais, mais pas pantoute. Mais
c'est vrai, c'est plus une PLL qu'une New England IPA, mais ça, c'est...
Écoute, j'ai mis tellement doublons dedans à 0 minute Whirlpool.
Toxique d'abord. Parce qu'elle goûte pas le houblon. Elle
non,
goûte
mais
la PLL.
Quand j'ai sorti mon houblon, ma bière directement de mon fermenteur, ça goûtait exactement ça.
Toxique direct part.
Tout est possible. Écoute.
T'as mis combien de doublons, Kevin?
8-11.
Au total?
Total.
C'est rien? T'as pas une New England IPA à 8-11 total?
Ben, pour un 20 au total, j'ai fini à 23 litres. Avec 0 minute, Whirlpool, 2 dry up.
Minimum 2 onces. Il n'y a pas de 0 minute, juste du upstand, puis du dry up. 5 onces dans un, 5 onces dans l'autre. Minimum.
Mais quand même. Ma bière aurait dû être brouillée. Elle ne l'est pas. J'ai pris la Foggy London. Ça a donné ça. J'ai pris du Simcoe Amarillo puis du Citra. Mais...
T'es-tu vieux?
Pas tant que ça. Le Simcoe, il est neuf. L'Amarillo, il est neuf. Citra, moyen. Pas si vieux, là. Même pas un an. Donc, j'essaie de penser, mais c'est comme... Hey, c'est ma première expérience. C'est que je lève... Je baisse pas les mains là-dessus. La bière est pas bonne. Là. C'est juste pas qu'est-ce que je voulais.
Elle est pas bonne, ta bière.
Non, mais toi, tu n'aimes pas ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. T'aimes pas ça.
Mais il n'y a pas le faux goût comme, mettons, du diacétyl dedans, tu sais.
Ou bien qu'elle goûte le carton mouillé ou quoi que ce soit.
Mais... On va peut-être commencer à goûter le carton mouillé.
Ben là, ça va faire quoi? 3 semaines qu'elle est en keg? Elle arrête déjà de changer de couleur. Là. J'ai toujours la même couleur depuis 3 semaines. J'ai eu peur justement qu'elle était oxydée. Et que je disais, go, on boit ça. Mais là, après 3 semaines, ça n'a pas bougé. Puis le goût est resté identique.
Fait que tu bois ça quand même.
Ben, je passe à travers la keg. Elle n'est pas bonne. Je veux dire, elle n'est pas bonne. C'est ça l'affaire. Elle n'est pas bonne.
Non, elle est bonne, mais elle n'est pas bonne. Je sais pas si tu me suis.
OK. Je devrais pas l'appeler New England à pied. C'est plus ça.
Ouais. Peut-être pas l'appeler comme ça, puis peut-être plus refaire cette recette-là aussi parce que j'aime pas ça. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est que j'aime pas ça,
ouais,
personnellement.
Peu importe, IPA double IPA, New England IPA, c'est pas ton dada.
C'est ça. Elle est pas bonne, à mon goût à moi. Ça veut pas dire qu'elle est pas bonne pour ton goût à toi.
C'est ça. Fait que...
Je vais boire de l'eau, man.
Continuons nos faux goûts.
Diacétyl.
Oh, le diacétyl.
C'est quoi le diacétyl?
Le diacétyl est un goût qui va goûter comme le popcorn.
Ou le beurre. Oui. Tu sais, il y a du beurre, là.
Et que cette étape-là est créée par la levure. Mm-hmm. Surtout quand on va les voir dans les lagers. C'est pour ça qu'il y a une étape qui s'appelle diacétyl reste. Et que quand on fermente à basse température, la levure va créer par elle-même le diacétyl. Mais le diacétyl reste nous permet de cette étape-là de monter la température entre 18 à 20 degrés Celsius pendant environ 3 jours. Et la levure va se réactiver pour remanger ses faux goûts qu'elle a créés elle-même. Et que, portez attention, tout dépendant du type de bière, lisez dans les specs de le type de bière, c'est acceptable dans certains cas un peu de goût de diacétyl. Ça fait partie du style de la bière. Sauf que tout dépendant du type de bière que vous allez, peut-être que vous n'avez pas trouvé ça agréable, ou bien que le diacétyl est beaucoup trop prononcé.
C'est la F1.
Ah bon?
Qui me dit que McLaren, ils font quelque chose présentement.
C'est bien. C'est bien.
Parce que oui, c'est le fun de la bière, mais je m'intéresse à d'autres choses aussi dans la vie. Puis là, ma monde vient de me dire que la F1, ils sont en processus de je sais pas quoi, parce que je vous parle présentement.
Mais oui, hey, j'apprends plein de choses sur Fitch. Je savais pas qu'il était un fan de course, d'auto.
Ah oui, j'adore ça.
Mais j'ai aucun intérêt.
Moi, j'aime ça.
J'étais voir le Champ Car une fois dans ma vie. Puis j'étais content d'avoir des bouchons. C'était assez désagréable. Puis une fois que t'es assis dans l'estrade...
C'est son expérience. Lui, oui. Qu'est-ce qu'il se rappelle, c'est qu'il est content d'avoir des bouchons.
Oui.
On se prouve à quel point que Cam se bip-bip de la course automobile.
Ben, écoute, je suis assis dans l'estrade, puis ça fait zoom, puis c'était fini. Puis c'est comme, ben là, t'as pas le thrill de toute la course, parce que quand t'es sur place, c'est plus pour l'ambiance, parce que t'es tripeux de char, puis ensuite, je suis pas un tripeux de char, mais vraiment pas. Puis voir les chars pendant une fraction de seconde qui passent devant toi, sans voir le thrill des dépassements ou qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est moi. Donc, ça, c'est pas un préjugé. J'aime juste pas ça.
Comme moi, j'aime pas les nanas IPA.
C'est ça. Ça veut pas dire que c'est pas bon. J'aime pas ça.
Fait que si vous voulez goûter le diacétyl, vous pouvez aller aux trois brasseurs quand ça va réouvrir et demander une pinte de blonde. Parce que la blonde, il y en a beaucoup dedans. Et pourquoi, Kev, qu'il y a beaucoup de diacétyl dans cette blonde-là?
Si c'est ça qu'ils veulent, si je me rappelle bien...
Non, c'est pas ça qu'ils veulent.
Je m'en rappelle plus. Je me rappelle qu'on en a déjà parlé, mais je m'en rappelle plus.
Hey, tu passes ton temps à y expliquer des affaires, puis lui, il t'écoute même pas quand tu parles.
Écoute, il m'écoute jamais quand que je parle, puis il n'y en a rien à foutre avec,
c'est vrai.
Dans ta face.
C'est vrai. En gros, c'est parce qu'il fermente avec des levures ultra turbo super rapidement. Fait que le diacétyl peut être causé par une fermentation beaucoup trop vite. Et là-bas, en plus de ça, comme qu'on avait déjà discuté avec notre ami Pat, la bière est mise tout de suite dans un gros keg qui s'appelle un...
Bright Tank.
Ben, au moins, il se rappelle de ça. Fait que... Puis elle est conservée au froid, fait qu'elle continue pas à refermenter puis à finir sa fermentation. Fait qu'une maturation pourrait faire éliminer ce goût de diacétyl-là qu'on a dans la bière. Fait que si t'as un goût de diacétyl puis t'es en bouteille, t'es chanceux, tu as juste à la faire maturer et normalement, ça va s'enlever. Quelle est l'autre cause qui peut donner du diacétyl?
Ben, si notre levure est pas assez en santé pour faire sa job, justement, pour remanger, si on n'a pas assez de bonne levure en santé active, elle doit faire son travail. Et dans les deux sens, si elle va pas manger tout son sucre, elle sera pas réactivée non plus pour remanger les faux goûts qu'elle a créés du diacétyl. Et que, encore une fois, on parle encore de fermentation et de santé de levure. On voit qu'à quel point c'est plus important que les gens peuvent penser. Parce qu'on va dire, on fait de la brasse, on a tout fait, puis après ça, on oublie ça. On revient encore sur le même sujet. Fermentation, santé de levure, ça va peu causer justement que le diacétyl ne va pas disparaître dans votre bière.
L'autre chose aussi qui peut arriver, il y a certaines souches de levure qui sont propices à dégager du diacétyl plus fort. La 1463 de Wise, entre autres. Si je ne me trompe pas, c'est celle-là qui est un gros haut taux de diacétyl dedans. Fait que certaines souches de levure que c'est normal. Et si tu aères pas ton mou comme du monde, ça va dégager du diacétyl. On voit beaucoup de monde shaker les fermenteurs, dire de rajouter de l'oxygène. Pourquoi qu'il faut rajouter de l'oxygène? Y a personne qui te le dit. Shake ton affaire, même moi dans mes vidéos. Mets deux passoires, ça va te donner de l'oxygène. La levure a besoin d'oxygène.
Ayez pas peur, c'est juste dans le début pour que la levure fasse bien son travail. Si c'est le contraire, après la fermentation active, c'est l'ennemi numéro un de la bière. Vous allez l'oxyder, vous allez avoir d'autres problèmes. Et donc, ayez pas peur de brasser votre fermenteur pour être capable de bien aérer, que l'oxygène qu'il y a dans l'air soit bien réparti pour que la levure fasse bien son travail. Si on parle des bières à très haut pourcentage d'alcool, l'air qu'on a ambiant n'est pas peut-être nécessairement assez. C'est là qu'on prend une bonbonne de CO2 puis mettre l'oxygène, une bonbonne d'oxygène, excusez-moi, pour le mettre directement pour monter le taux d'oxygène dans votre mou.
Tu écoutes pas? C'est pas vrai! Je sais que
c'est pas un replay en arrière.
Fait que comme Kev dit, mais il faut faire attention quand même, c'est des calculs à faire, fait que t'as bien fait. Tu sais pas s'acheter une bonbonne d'oxygène avec une pierre diffusée, puis faire comme on va compter trois bateaux, puis on va être correct. Ça va dépendre de ton degré plateau, de ton mou, et de combien d'oxygène que tu veux y rajouter par degré plateau, par visualité.
Whatever. Organise-toi avec ton français.
Fait que juste faire attention à bien utiliser. De pas trop en mettre, d'en mettre juste assez comme que la levure a besoin pour pas faire l'effet contraire puis d'en avoir trop que pas d'en avoir assez. Fait que ça, c'est pas mieux.
Et pour ceux qui sont à la maison, brassez votre fermenteur ou pour aider justement les tamis qu'on utilise quand on transfère de votre cuve de brassage à votre fermenteur, ça permet de ramasser un peu les dépôts comme de houblon ou d'autres choses qu'on a mis. Et en même temps, ben, ça va un peu éclabousser pour être capable d'aérer un peu mieux votre mou.
T'as-tu dit qu'est-ce qui se passait quand ça bouille?
Non, on n'en a pas parlé de ça. L'ébullition. Pensez à qu'est-ce que vous avez quand vous faites la glace là, dans le frigo. Là. Votre glace est blanche, mais si vous faites bouillir votre eau, votre glace va devenir transparente. L'ébullition enlève l'oxygène de votre mou. Et que quand on fait bouillir une heure, il nous restera absolument plus rien d'oxygène dedans. Donc, on vient d'enlever un nutriment, entre parenthèses, que la levure a besoin pour faire son travail. Et que en aréant...
Ça ne dit pas ça.
Non. En mettant de l'air dedans, en brassant de l'air, ça va vous permettre justement d'aider la levure à faire son bon travail.
Bon, on parle d'ébullition. Tu t'en viens-tu que tu commences à comprendre vers quel sujet je m'en venais?
J'ai entendu parler de DMS, mais...
C'est quoi ça, le DMS, mon cœur?
C'était du sulfate de...
Diméthyl. Ouais.
Diméthyl. C'est le fun des notes, hein?
Ouais, fait que le DMS, en gros, là, ça, c'est une section que j'adore. J'adore ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'on vend beaucoup de Grandfather. Puis la question que je me fais tout le temps poser dans le Grandfather, c'est...
Faut-tu mettre mon couvercle ou je l'enlève, mon couvercle?
Pas juste ça. Il me semble que l'ébullition n'est pas assez forte. C'est-tu assez fort? Moi, on m'a dit qu'il faut que je rajoute un élément dedans parce que ça va être pas assez fort. L'élément de 1500 watts de Grandfather, il est pas assez fort pour faire bouillir un beau boy constant.
Plus que ton boy est fort, mieux efficace que ça va être. Mais on va faire ébouillir pendant une heure. Vous allez voir toute l'évaporation qui va arriver devant... Le DMS va partir avec l'évaporation. Et que mettez jamais votre couvercle quand vous faites l'ébullition. Le but n'est pas de dire hey, on va avoir de la perte, je vais perdre de la bière. Non, ça enlève le méchant qu'on ne veut pas. Le DMS se crée automatiquement dans l'eau chaude avec le mélange de grains. Ça le crée. Et que l'ébullition n'est pas juste pour stériliser. Ça nous permet justement d'enlever ce faux goût-là qui est créé, peu importe ce que vous allez faire, vous allez avoir ce goût-là.
C'est aussi beaucoup créé par le Pilsner. Fait que si jamais tu as beaucoup de DMS puis tu as de la misère à t'en débarrasser, puis tes autres bières n'ont pas, ben si tu as plus de Pilsner que d'habitude, tu peux le remplacer par un Durant. Je pense que cette partie-là, c'est plus que là, plusieurs années. Je pense
que
maintenant, c'est beaucoup mieux modifié. Là.
La technologie et l'avancée que les malteurs ont eu et les agriculteurs. L'efficacité, les problèmes sont beaucoup moins présents avec le Grain Pilsner. Mais si vous voyez que vous voulez absolument que tout soit correct puis vous avez un goût plus très sensible à ça, essayez justement de changer votre grain de base pour changer justement, comme qu'il dit, du 2 rangs, du Pale Malt. Puis regardez si vous êtes capable de voir la différence ou non.
Pourquoi qu'il faut refroidir le plus rapidement possible?
Parce que le problème, c'est que ça recrée le DMS. Et que des fois, quand que ceux qui vont mettre, sont pas équipés à la maison pour refroidir, ils n'ont pas de refroidisseur avec un col de stainless ou de cuivre ou bien un counterflow, il y a des gens qui vont le mettre dans leur bain ou trouver une façon de le refroidir.
Oui, je le laisse toute la nuit au complet puis je le mets juste le lendemain matin.
Tu peux le faire. Automatiquement, le DMS se recrée. Si je me rappelle bien, puis je dis ça approximatif, là, en dedans d'une demi-heure, 45 minutes, c'est déjà un début de recréation de DMS. Et plus que vous attendez, plus le DMS se recrée et s'ajoute. Et que c'est pour ça qu'on veut faire le plus vite possible. Vous êtes pas, on viendra pas fou. Là. Si on dit un exemple qu'on va le baisser à 80 degrés pour faire un hop stand, puis là, on va le tenir pendant tant de temps, vous n'allez pas créer du DMS. Là. Bon, les étapes se font un après l'autre. Mais si vous décidez de faire ça des heures plus tard, bien, la chaleur va recréer encore ce mauvais goût-là, puis vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. Être bien équipé pour ces étapes-là va pouvoir vous aider à éviter ces problèmes-là. Puis on peut trouver ça où? Des bons équipements de refroidissement au.
Il y a ça au www.lebrasseur.ca, tu sauras. Aujourd'hui aussi, on parle un peu des fougous. On vous explique c'est quoi. Puis, mais le DMS, on ne l'a pas dit, mais ça goûte la choucroute, là, le chou bouilli, le. C'est ça goûte ça. On ne l'a pas dit. Puis, je pense qu'on l'a pas
on
dit.
Fait que,
on parle en DMS. Ah, c'est cool ça, mais tu sais pas comment ça va goûter. Fait que tu sais pas si c'est ça. Le DMS, ça goûte la chou bouilli. Mais ceci dit. Aussitôt que que vous faites vacciner, hein, on va faire de la propagande un petit peu. Aussitôt que vous faites vacciner, on va pouvoir réouvrir des commerces normales, tu sais. Si on peut réouvrir les commerces normales, Fitz, le brasseur, à la compagnie du brasseur, fait des cours de.
Du brasseur, wow! Ouais, des concepts, hein?
Ouais, Fitz, le brasseur, de la compagnie du brasseur, Fitz, le brasseur, hein?
Ça sonne pas mal comme Madame Brassard de la
compagnie. Ouais, je sais, tu l'as déjà dit dans le premier podcast
en passant. C'est pas grave, t'arrêtes pas de m'envoyer là. Tu m'as ouvert la porte.
Fait qu'en gros.
Est-ce que tu m'as écouté au premier podcast?
Ouais, juste celle-là. Juste cette phrase-là. Fait qu'en gros. On fait des faux goûts tests. On va donner des cours de dégustation, soit de faux goût ou de bon goût, ou de faux goût et de bon goût. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment pratique à faire très régulièrement. Et aussitôt que la pandémie est finie, on va pouvoir faire ça. Puis le pire, c'est qu'un coup, vous allez être vacciné, vous allez pogner beaucoup mieux le 5G! Mais les conspirateurs vont comprendre.
Ah, d'accord, désolé. Ça fait longtemps que j'écoute plus les nouvelles, puis je suis plus rien.
Ah là, c'est au début de la pandémie, ça. Hey, le vaccin va donner 5G, man.
Ouais,
on va te retracer à la lettre.
D'accord.
Ta montre et ton téléphone font la même affaire. Bon,
ça. Ouais, non, ça, je l'avais catché, mais désolé, j'ai pas fait le lien entre les deux de conspiration. L'important, c'est que quand on parle de faux goût, c'est une éducation que vous allez faire à votre palais. Et que, veux pas, pour bien reconnaître les mauvais goûts, il y a un exercice à faire. Et malheureusement, avec le confinement, on a mis tous ces projets-là de côté. Mais justement, ils se vendent des kits que Fitz a accès pour pouvoir donner les formations qu'on met dans des bières pour pouvoir détecter les faux goûts. Et qu'une fois qu'on donne l'explication, ça va aider à votre connaissance, à votre mémoire, pour dire d'être capable de retrouver peut-être un mauvais goût dans une de vos bières que vous avez faites. Et si vous êtes capable de reconnaître ce goût-là, vous êtes capable de discerner quel genre de solution vous pouvez avoir plus tard pour...
En gros, Kev, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que si quelqu'un te dit un goût de chou bouilli, peut-être que toi, tu vas goûter d'autres choses. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire des cours. Chaque personne déguste différemment et arrive avec un nom ou un terme que peut-être que tu ne connaîtras pas. Fait qu'on fait un néo-test à nous, ici, au brasseur. On te laisse déguster, puis après ça, je te dis qu'est-ce que c'est supposé de goûter, d'après la majorité du monde. Si toi, tu trouves que le goût de moufette goûte bon... Ben, t'as le droit, t'aimes ça la Heineken, toi. Fait que, si on dit un goût de moufette, peut-être que toi, tu vas dire, ah, c'est à l'odeur du pot, tu sais, parce que dans ta tête, t'as jamais vu de moufette, mais t'as déjà senti un joint brûlé. Fait que, tu vas pas faire la relation comme tout le monde va le faire. Fait que, c'est pour ça que c'est important de prendre nos tests. Goût de médicament, goût de métal, ça peut être des goûts qui se ressemblent vraiment beaucoup. Goût de savon peut être aussi difficile à trouver quand on n'a jamais goûté ça dans une bière. C'est pas comme si on mangerait une barre de savon ou du shampoing. Là, c'est vraiment un goût comme plus spécial. Fait que c'est pour ça que les goûts de faux goût sont très importants. Puis là, on va parler du goût de moufette. Parce que je veux expliquer quelque chose avec le goût de moufette. Mais premièrement, Kevin, je sais que tu connais la réponse. Qu'est-ce qui donne ça dans la bière?
Malheureusement, c'est quelque chose qu'on connaît tous parce que ça a été commercialisé comme de quoi que c'était correct. Mais un goût personnel, on n'en a rien à foutre. Si vous aimez ça, vous aimez ça. Regarde, c'est correct. La Heineken Corona en bouteille transparente. Pourquoi qu'on parle les bouteilles ça? La lumière, les rayons UV et même les lumières...
Ultraviolettes.
Ben, pas ultraviolettes, mais UV. Je pense que même les lumières intérieures, ils vont...
Il y a du UV?
Oui, ben... Dans toutes, non.
Quasiment, ouais.
Mais anyway.
Avec les néons et les LED, c'est moins commun, mais avant, avec l'incandescent, c'était du UV. Là. Quand tu faisais pousser du pot, tu mettais quoi? Des lumières, puis les lumières qui avaient du quoi? Qu'est-ce qu'il y a besoin de la plante pour grossir?
Ben là, je vais dire du UV, mais bon. c'est toi qui vas me guider là-dessus. Là. J'ai pas de connaissance de cette substance.
Tu faisais pas pousser de pot quand tu étais jeune?
J'ai jamais pris de pot de ma vie. Oui.
Fait que tout le monde, envoyez tout le monde un joint à Kevin, on filme ça, on le gèle comme une balle, ça va être écœurant,
non, merci,
ça va être drôle.
C'est gentil. Mais grosso modo, c'est que l'alpha-acide qui est à l'intérieur a une réaction avec les rayons UV. Donc, veux pas, toutes les bières ont du houblon dedans. Donc, on utilise l'alpha-acide et moindrement que la lumière extérieure va affecter. Si vous vous servez une bière dans un verre et que vous êtes à l'extérieur pendant longtemps, ça prendra pas de temps que le mauvais goût peut se développer. Donc, vos bouteilles que vous prenez à la maison, votre fermenteur que vous avez à la maison, si c'est transparent, si la lumière rentre, ça va affecter automatiquement ce problème-là. Donc, ceux qui ont les bouteilles grolges comme que j'ai commencé parce que d'une façon économique, j'allais au dépanneur ou j'allais à l'épicerie puis je reprendrais les retours de bouteilles. La lumière, les bouteilles vertes vont cacher les rayons UV à 30-40%. Les bouteilles claires, 0%. Puis les bouteilles brunes, environ 80% que ça va protéger
attends,
des rayons
attends,
UV.
Attends, là. Tu viens de me dire que quand je vais chercher de la bière à ma boutique de bière... Puis les bouteilles sont plein soleil, c'est pas bon pour la bière?
Jamais de la vie. Et peu importe.
Ça veut pas dire que la micro n'a pas bien fait sa job, là.
Ah, prenez le temps de regarder d'où c'est que vous achetez votre bière. Comment que c'est entreposé? Les températures, le froid, les lumières. Il y a des gens qui, sans manque de connaissances, ils vont le mettre un peu partout. Puis en fin de compte, vous allez dire, est-ce bière-là, si je ne rejetterai plus jamais ça, c'est pas bon. Prenez en considération que c'est pas nécessairement la compagnie qui a fait un mauvais produit. Regardez où c'est
que vous achetez. L'apparature, puis toutes ces choses-là, qui peut donner des faux goûts. Fait que même si toi, tu veux pas faire de bière, tu peux quand même venir prendre le cours de dégustation. Comme ça, tu vas connaître les faux goûts de où est-ce qu'il vient, puis tu vas pouvoir aider les microbrasseurs à leur dire « Hey, tel détaillant, j'ai acheté une bière chez eux, puis elle était pas bonne à cause de tel faux goût, puis c'est à cause de l'entreposage. » Ou au contraire, tu vas pouvoir dire tel numéro de l'eau, je crois qu'il y avait du diacétyl dedans. Tu pourrais-tu vérifier?
Je m'en rappelle, là, peut-être un bon 5-6 ans. Tu sais, il y avait beaucoup moins de microbrasseries à cette époque-là. Mm-hmm. Puis moi, j'avais découvert la microbrasserie de Donham. Puis... Je travaillais dans le coin de Chambly-Marieville et il y avait sur leur site web les distributeurs aussi que tu pouvais en acheter. Généralement, il fallait que tu ailles assez loin à l'époque pour en trouver. Puis, il y avait un dépanneur à Chambly qui en avait. Et qu'on a fouillé partout, on a trouvé. Et c'était une bière très ordinaire. Puis, après un recul, on a regardé la bouteille, la date dessus. Ça faisait 2 ans que cette bière-là était dans leur frigo, cachée dans le fond. Et malgré qu'elle était bien entreposée, une bière de 2 ans a perdu toute la magie de son originalité parce que, veux pas, la bière s'est détériorée. Pas qu'elle était pas bonne, toxique, mais en bout de ligne, elle devait pas goûter ça. C'était la bière la plus plate que j'ai prise, mais pourtant, ils font de la très bonne bière, Donham.
Oui, oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Ils sont reconnus. En plus, faire de la bonne bière, c'est ça. On n'a jamais bu en podcast, mais ils font de la très bonne bière.
Oui.
C'est vrai, on n'a jamais bu en podcast.
Non, c'est vrai. J'étais souvent à leur brasserie à Donham. Il y a un côté brasserie pub avec la bouffe, puis de l'autre côté, tu avais un restaurant un petit peu plus culinaire fancy avec les accords mets bières.
Oui, mais on s'entend aussi que, il y a 5 ans, la bière de microbrasserie, si tu sortais un peu des sentiers battus de blonde, rousse, noire, puis un peu IPA, t'étais comme weirdo, puis il n'y a personne qui voulait t'écouter. Là. Fait que, il fallait qu'il reste comme plus artisanal que Molson Labatt, mais pas trop comme présentement qu'on peut voir Bas-Canada ou des choses comme ça qui sont vraiment... Ou Sir John's, ah, oui. Ou Broski, qui font
ça
des affaires un peu plus pétées que recule là, 5 ou 10 ans, là, ces gars-là auraient fermé à faire des bières comme ils font là aujourd'hui. On a un peu une ouverture d'esprit un petit peu plus grande, je pourrais dire, que là, 5 à 10 ans, quand on a commencé à boire la bière de micro. Là.
Oui, le marché c'est, a évolué. Écoute, veux, veux pas, il y a une mode, il y a, une, il y a un côté huppé de dire c'est cool, puis ainsi de suite, mais veux, veux pas. Ce côté-là a amené une ouverture d'esprit à découvrir des nouvelles choses puis à pouvoir déguster. Et qu'une fois que tu as parti, tu as mis de côté ton préjugé que cette bière-là, que c'est toujours ça que je bois en fin de semaine, c'est ça que j'aime, ben ça s'applique dans tout dans la vie. Ça va s'appliquer sur le vin, ça va s'appliquer sur le mets, un nouveau restaurant, peu importe. Si on sort des sentiers battus...
Le whisky?
Ben...
Le moi, whisky, toi, tu dis « Ah, j'aime pas ça, ce whisky-là, je te fais goûter à l'avec. Ah, c'est bon, ça, c'est quoi, c'est le whisky que t'aimais pas? »
Il me semble que oui. Il me semble, j'ai des souvenirs de ça. Ben oui. Il me semble, j'ai des souvenirs de ça. Mais puis j'ai même un souvenir de rhum. Quelqu'un m'a fait ça avec du rhum. Et de mes souvenirs de rhum, il y a un rhum que j'avais pas aimé. C'est, tu sais, quand on prend l'exemple, le même principe du vin, qu'est-ce que tu buvais avant?
Mais pas juste ça. À quelle compagnie que t'es? Souvent, la compagnie ou l'instant que tu vas boire cette bière ou cette boisson-là va avoir un impact vraiment gros sur la dégustation que tu vas être capable d'y faire. Parce que c'est prouvé que si tu bois en certaines compagnies, mettons, tu t'es chicané avec ta blonde, OK? Puis là, t'es chicané avec ta blonde, puis là, tu vas ouvrir un whisky, puis tu vas boire ça, genre, pour te décompresser, puis tout. Mais t'as l'amertume de t'avoir chicané. Bien, la boisson, surtout si c'est une nouvelle boisson que t'as jamais goûtée, peut... Tu peux goûter différemment que, un exemple, t'es avec Fitz le brasseur, puis t'es content de le voir, puis ça fait longtemps que t'as le goût de le voir, puis on prend une bonne bière ensemble. Ben, peut-être que la même bière que tu l'as bu avec l'amertume, que. Pas de l'amertume, trop doublon, hein, l'amertume en voulant dire que t'étais fâché. Et de l'amertume, tu sais, heureux que t'étais heureux de voir Fitz le brasseur. Puis là, en plus, tu vois Kev arriver tout en slow motion dans le cadrage de la porte. Là, tu viens encore plus... Exactement. Tu viens encore plus heureux. Peut-être que cette même bière va être encore beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que qu'est-ce que tu as bu, les souvenirs que tu avais précédents. Ça pense, Kev?
L'association des émotions, des souvenirs joue un rôle. Je vais toujours me rappeler d'une vidéo que j'avais vue en ligne d'un gars qui faisait du whisky en Australie puis qui trouvait que son whisky goûtait les oignons. Ben, c'était dans sa barbe. Il a fait la cuisine, tu le quittes, puis c'est dans sa barbe, puis en fin de compte, l'odeur, c'est comme... Il a fallu qu'il recommence. Il dit « OK, j'ai pris le lendemain, j'ai pris ma douche, tout va bien. » Là, j'avais fait la cuisine toute la journée. Et qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a bu avant? Faites des fois une association que on reste moins hot sur ce produit-là, puis en fin de compte, le lendemain, tout va bien.
Fait que ceci m'apporte à parler d'un nouveau goût. Un goût de médicament. Pourquoi je te parle de ce goût-là, mon Kevin?
Parce qu'il m'a fait remarquer que ma bière, qui est ma Vienna Lager...
vraiment bonne, d'habitude.
Oui, oui, mais regarde, c'est peu importe, ça peut arriver, ça fait partie de mes bad luck habituels dernièrement. Là, c'est ça. Mais oui, il y a un petit goût de médicament faible, mais il est présent. Et que oui, je donne raison dessus. Et que tant qu'à faire, on va en parler. Il y en a là-dedans.
Fermentation. Ouais. C'est la fermentation, mais aussi le rinçage à l'eau trop chaude peut donner ce genre de goût-là. Ou une levure qui produit ce genre de goût-là. Fait que peut-être qu'il n'avait pas tout à fait fini de fermenter. Ou la levure est un petit peu plus vieille, parce que des fois, Kevin, il prend des levures un petit peu plus vieilles pour brasser. Puis son starter, peut-être qu'il avait manqué de souche de levure vivante.
Ça se peut. Des fois, tout dépendant, je vais pogner un pack que je vais regarder pour pouvoir refaire mon starter. Dans certains cas, avec les lagers, je vais peut-être même faire un deuxième starter vu que la levure était un peu trop vieille. Mais en bout de ligne, la réalité, c'est que j'ai pas de microscope pour te confirmer oui, non, que tout ouais, était correct. Ouais, mais je pense qu'il accumule la poussière depuis des années, ton microscope.
Il est super bien serré.
En voulant dire, tu l'utilises pas, ça, je veux dire.
Puis il est serré.
Oui, c'est bon. Et que le principe, c'est que tout se calcule pour bien faire son travail. Si j'aurais été dans un laboratoire ou bien j'aurais ma propre microbrasserie, j'irais pas à peu près. C'est ma business. Là, on y va selon les calculs de logiciels qu'on pourrait avoir pour avoir le nombre de levures qu'on a besoin pour. Parce qu'oubliez pas que les lagers prennent le double de la quantité de cellules versus une L. Donc, je vais peut-être faire un double. Starter pour avoir le plus de souches de bonnes cellules viables. Mais en bout de ligne, je ne sais pas ce que j'ai eu comme résultat final. Je me suis juste fié à des calculateurs. Donc, ça se peut que ça n'a pas donné les résultats prévus. Puis des fois, quand je vais prendre... La réalité, c'est que je commence à connaître plus mes souches de Lover L pour savoir c'est quoi les particularités. Je connais pas grand-chose dans les souches de Lover Lager. Je peux lire dessus. C'est assez nouveau. Je peux lire dessus, mais il n'y a pas tant de détails que ça. Fait que je vais pogner une lager, puis j'ai mis la lager dedans. Est-ce que cette lager-là me causait un problème? Est-ce que j'ai pas mis assez de levure dedans pour qu'est-ce que je voulais faire? Normalement, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est que je vais faire une semaine et demie à 12 degrés, puis moi, je vais laisser ça une autre semaine et demie en diacétylres à 18 degrés, par exemple.
Ouais. Moi, je fais plus long encore.
Oui. Mais dans un sens, ça change pas grand-chose. La job a été faite. Le but de l'avoir monté, c'est finaliser la fermentation et de s'assurer qu'il n'y ait pas de diacétyl. Mais en bout de ligne, comme je dis, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis comme compte de levure. Et que regardez vos souches de levure paquet frais que vous allez acheter chez Fitz le Brasseur, qui va vous permettre de faire une très bonne job et d'éviter ces petits problèmes-là. Que la réalité, c'est que j'expérience et je m'amuse avec ça. Fait que des fois, j'y vois à peu près, puis on va voir si on va créer une nouvelle chose ou je me suis planté carrément.
Fait que c'est ça qui est important quand on va faire de la bière. Comme vous pouvez remarquer, oui, il y a des faux goûts qui viennent de la fabrication de la bière. Beaucoup de monde va acheter les grandfather pour éviter ces faux goûts-là puis aider à aller un petit peu plus rapidement puis tout. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup des faux goûts sont créés à cause des levures, à cause des températures de fermentation. Et c'est pour ça que c'est important de bien contrôler nos températures. Si c'est pas possible pour toi, assure-toi d'avoir une pièce qui est un petit peu en dessous des températures maximales ou minimales de la levure. Parce qu'automatiquement, quand on va fermenter, ça va réchauffer. Fait que si ta pièce est à 18 et ta levure a besoin de 20, c'est sûr que tu vas être capable de l'atteindre en ayant mis ta levure. Ça va prendre un petit peu plus de temps à décoller, oui, mais au moins ça va pas overshooter puis peut donner les faux goûts qu'on peut voir. À part, non, il n'y a même pas de levure qui donne des faux goûts quand tu fermentes trop froid. Pourquoi? Parce qu'elle ne fermentera pas, elle va s'endormir.
C'est pour ça que les lagers sont faits exprès pour fermenter froid. Et les L, généralement, ça va commencer entre 18 et 23 degrés en moyenne. La suggestion qu'on pourrait faire, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas contrôler leur température et que c'est très chaud, prenez une levure Gvec.
Ouais.
La levure Gvec peut aller 30, 35... 37, 38 degrés
40,
Celsius.
45,
la bosse. Regardez la souche que vous avez avec la Gvec. Elle va vous permettre d'avoir le feu vert, de rien contrôler. Elle va sortir les esters. Veux pas, vous allez avoir des saveurs qui vont venir de la levure, mais c'est des saveurs volontaires et agréables.
Même chose pour tout ce qui est les saisons. On peut fermenter beaucoup plus chaud, souvent jusqu'à 32 degrés Celsius. Les levures Hefeweizen qui pourraient fermenter jusqu'à 26-27 degrés, qui va sortir des goûts de banane. Oui, si tu veux le goût de girofle, t'es fait. Mais au moins, tu peux continuer à brasser, puis t'amuser, puis expérimenter des nouvelles levures. Puis l'hiver ou le printemps, puis l'automne de début, ben, ou début automne, fin automne, début printemps, tu peux fermenter des bières qui sont plus aux alentours de 18 à 20 degrés, qui vont te sortir des bières un petit peu plus normales. Fait que c'est pour ça que souvent le monde va brasser beaucoup, 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 beaucoup de ce temps-ci.
C'est le temps d'être sur le party. De toute façon, on veut des bières en été. On aime ça d'être dehors, puis on aime ça de pouvoir profiter du résultat de notre dur travail et de notre connaissance.
Fait que mon cave, on passera pas toutes les fougous qui existent sur la planète parce qu'on n'aura pas fini.
Ça va être un autre podcast un moment donné qu'on va pouvoir vous expliquer et vous aider, vous guider dans vos processus de travail de brassage qui va vous permettre d'avoir un meilleur résultat à la fin.
Si jamais tu as des questions sur les faux goûts, n'hésite pas en commentaire. Tu peux aussi nous appeler à podcastcommercial@lebrasseur.ca. Tu as aussi les Kev en fût à quelque part, le kev.en.fu ou très
sur Dignon. Instagram ou Kev en fût sur Facebook. Sur ceux qui veulent me suivre, deux comptes différents, deux pas les mêmes choses qui se répètent. C'est juste pour passionner de la bière. Fait que, si vous voulez me suivre, sinon, ben, regardez nos podcasts puis allez magasiner chez Fitz. Ouais. Il va y avoir du stock à vous faire triper tellement qu'il y a de l'inventaire et des produits très intéressants.
Plein de nouveaux projets qui arrivent. Fait que si t'es pas encore abonné à la channel de Fitz, je te le laisse en commentaire présentement. D'ici là, portez-vous bien. On se voit dans le prochain podcast. Kev, tu veux parler de quoi dans le prochain podcast?
Je ne sais pas ça. Moi, je vois sur mon fly. Généralement, tu me donnes la responsabilité. Je ne fais pas quelque chose. Puis si tu chiales pas, c'est qu'on y va là-dessus.
Ciao tout le monde!
Bonne grâce à tout le monde.